que la Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. Avec Catherine. Catherine. Catherine, le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Salut Bernard.
Allô Catherine.
J'avais hâte de te parler. On a plusieurs sujets, bien sûr, mais je veux revenir sur ton entrevue avec Isabelle Charest. Je veux avoir ta vision des choses. Tu lui as parlé, je l'ai écouté, j'en ai fait entendre des extraits tout à l'heure. As-tu l'impression qu'on l'envoie un peu à l'abattoir? T'sais, Mme Lebel, qui est une avocate, une procureure, une femme solide, évidemment, elle en avait beaucoup, là, mais... Est-ce que c'est une erreur de donner ce dossier-là à Isabelle Charest? Puis comprends-moi bien, Bernard, moi, je l'ai supporté ce matin. J'ai fait un éditorial là-dessus. Ce qu'elle a dit, moi, je pense la même chose. On lui a demandé son opinion sur le hijab. Et elle a répondu comme femme ce qu'elle pensait. Mais as-tu l'impression que c'est comme, tiens, la grande, voici le dossier le plus délicat, puis c'est à toi qu'on confie ça?
Moi, je pense qu'on l'a mal préparé.
Ah oui?
Oui, oui, oui. Okay. Ah oui, oh, oui, oui. Les conseillers du premier ministre, là... Ils sont là justement pour voir venir les coups. Puis dans ce cas-ci, c'est le premier ministre qui la nomme, hein, le ministre de la Condition féminine. Ouais. Ils avaient la responsabilité d'anticiper les questions que les journalistes allaient poser. Et avec le recul, on se dit tous, c'est évident, là.
Ouais.
Ben, ils auraient dû quand même la voir venir, la question sur le hijab, avant qu'elle fasse son point de presse, pas après.
Tu sais? T'as raison. Ouais.
Et d'ailleurs... J'ai ouï dire là, qu'ils le constatent, eux autres aussi, qu'ils le reconnaissent.
Ah oui.
Qu'ils auraient dû être meilleurs dans sa préparation. Parce que, qu'est-ce que tu veux, on le sait que c'est le dossier qui va être le plus important de la session. Legault a décidé qu'il allait régler ça d'ici juin. Il veut faire voter le projet de loi d'ici juin. Et puis, bon, c'est pas la première responsabilité de la ministre de la Condition féminine. Dans les faits, elle est appelée à jouer un rôle assez mineur dans l'espèce de pièce qui va se dérouler sous nos yeux. Là, c'est le ministre Jolin Barrette qui va évidemment occuper le premier rôle, ministre responsable de la laïcité. Je vais te dire franchement, Jean-François Robert, je serai pas loin derrière, parce qu'à partir du moment où les caquistes veulent encadrer les signes religieux dans les écoles, c'est évident que le ministre de l'Éducation va être confronté à toutes sortes de pressions des syndicats, des commissions scolaires, du monde qui vont crier pour dire ils peuvent pas aller là, ils peuvent pas aller là parce qu'ils vont faire perdre des emplois à des enseignantes, etc. Donc, Roberge va être sur la ligne de front. Sonia Lebel va être sur la ligne de front parce que l'attaque va venir aussi sur l'inconstitutionnalité. Donc, s'il y a recours à la clause dérogatoire, elle va être obligée de défendre ça à titre de ministre de la Justice, c'est bien entendu. Mais aussi la ministre de la Condition féminine, parce que la dimension femme dans ce débat-là, elle est très, très, très importante.
Ouais.
Et donc, elle a été mal préparée. Maintenant, moi, je pense qu'elle est allée trop loin. Là-dessus, on a un désaccord. Je n'ai pas de problème avec ça.
Okay.
Mais je pense qu'elle n'a pas été mauvaise hier. Elle a réussi, je trouve, à peu près retomber sur ses pieds en disant « c'est pas juste la religion musulmane. Dès qu'une religion impose quelque chose à une femme, ça devient pour moi un symbole d'oppression. » Et en recadrant de cette façon-là, je me suis dit « ah, je pense qu'elle va réussir à s'en sortir.
Ouais. »
Tu sais, je pense qu'elle va réussir à s'en sortir.
Mais je pense que oui, mais as-tu lu, puis je sais que tu l'as dans ton émission, Loïc Tassé, que moi j'aime beaucoup écouter, là, qui est toujours pertinent. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit hier. Il dit « Une des premières découvertes de la sociologie a été de démontrer que ce qui apparaît à prime abord comme un choix personnel peut en fait provenir de pressions sociales immenses. Le port du voile islamique fait partie de cette catégorie de phénomènes. »
C'est tout le débat. Ouais. Beaucoup de côté écrit là-dessus aussi aujourd'hui.
Oui, je le sais,
là,
exact.
Il dit, dans le fond, au-delà du fait que ces femmes-là, dans certains cas, très évidemment, choisissent librement de le porter. Il dit, ce symbole-là, le hijab, c'est quand même, ça procède quand même d'une volonté d'imposer quelque chose aux femmes parce qu'elles sont femmes. Une volonté religieuse, dans certains cas même intégriste, dans certains cas même politique, comme c'est le cas en Iran, par exemple, où les femmes sont obligées par le régime de se couvrir. En Arabie Saoudite, même chose. C'est la politique qui les impose à s'inférioriser comme femmes. Et la raison pour laquelle on leur impose ça, c'est parce qu'elles sont femmes. Elles doivent être chastes. Elles doivent se cacher la chevelure pour ne pas exciter les passions des hommes. C'est ça la raison.
Exact.
Alors donc, il y a une signification religieuse, culturelle, peut-être même politique, certainement politique, au port du hijab dans certains pays. Mais moi, je pense quand même, Catherine, que la majorité des femmes, là, ils ne sont pas conscientes du poids, je dirais, sociologique, comme tu l'appelles, ou du poids culturel de ce hijab-là. Tu sais, de la même manière que quand nos grands-mères portaient le voile pour aller à la messe, là. Ouais. Je l'ai vu, moi, Angéline, porter le voile pour aller à la messe. Penses-tu qu'Angéline, elle se disait, c'est le Vatican, puis c'est l'Église catholique qui me considère comme inférieur à l'homme et qui m'oblige donc à faire cet acte d'humilité? Ben non, elle ne faisait pas une lecture politique de ça,
peut-être
Angéline.
Ben,
tu sais, les femmes de sa génération.
Non, je comprends.
Tu comprends?
Oui, oui.
Alors, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses dans ce débat-là qui est extrêmement délicat.
Oui. On va parler un petit peu de la caisse de dépôt. C'est le branle-bas de combat, Bernard?
Écoute, là, j'essaye de vous résumer quelque chose qui est assez complexe.
Oui,
mais ce que vous devez retenir, là, c'est que vous avez 308 milliards de placés à la Caisse de dépôt. OK, les Québécois, là? Bon. Et à l'intérieur de la Caisse, il y a une filiale qu'on connaissait très, très peu qui s'appelle Otera. Otera, là, Catherine, là, c'est un prêteur immobilier. C'est une filiale de la Caisse. Mm-hmm. Ils prêtent à des entrepreneurs qui vont construire après ça, mettons, des résidences pour aînés.
Oui.
OK? Ou des immeubles appartements. Donc, c'est un prêteur commercial, un des plus importants au Canada. Et là, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ont fait une enquête depuis le début de la semaine. Ils font des révélations. Par exemple, on a découvert que la vice-présidente d'Otera, donc filiale de la Caisse, ça nous appartient. Bon, bien, Martine Gaudreau, elle est en affaires et en relation de couple avec un prêteur immobilier qui a longtemps été lié au clan Rizzuto.
Bon. Exact.
Elle a été suspendue à la suite de ces révélations. Et là, à ce moment-là, Michael Sabia, le grand patron de la Caisse de dépôt, a nommé un avocat enquêteur. Je vais y revenir. Là, ce matin, il y a une autre histoire. Le grand patron d'Otera, filiale de la Caisse, il s'appelle Alfonso Gracheffa. Il s'est prêté à lui-même, d'une certaine façon. Il est patron d'Otera et il a prêté 3,3 millions. Enfin, Otera a prêté 3,3 millions à une entreprise dont il est copropriétaire avec son ex. Une entreprise qui voulait construire, dans ce cas-ci, un immeuble à revenus du côté de Côte-Saint-Luc. Ça fait suite aussi à l'autre histoire, à l'effet que ce grand patron, donc, d'Otera, est un partenaire d'affaires avec un dénommé Thomas Marcantonio. En fait, ils sont propriétaires dans 4 entreprises. Et Otera a donné un prêt de 44 millions à ce partenaire d'affaires pour construire une résidence privée pour aînés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, ce que j'entends, Catherine, c'est que Michael Sabia est dans tous ses états.
C'est sûr.
Il est extrêmement furieux d'apprendre ça. Et il a nommé un avocat enquêteur et... Ce que j'entends, là, puis ça circule beaucoup en ville, là, c'est qu'il va aller au bout. Michael Sabia, là, il en fait un test de leadership.
Mais il n'y a pas le choix.
Et dans son esprit, là, c'est l'intégrité de la Caisse de dépôt qui est en cause. Et je me demande même si, à quelque part, c'est pas, il ne perçoit pas ça un peu comme si c'était son intégrité à lui, à titre de grand patron de la Caisse depuis 10 ans, qui était mise en cause.
Ouais.
En tout cas, il en fait une affaire personnelle. Il va prendre tous les moyens... Et pour protéger à tout prix l'intégrité de la Caisse de dépôt.
Ben, il faut.
Et je vais te dire, l'avocat qu'il a nommé, là, est nommé Stéphane El-Jarrat.
Ça, c'est pas un débutant, j'imagine.
C'est un top gun.
OK, c'est ça.
Ils
n'ont pas le choix.
Il y a une expertise incroyable. Je suis allé voir son profil.
Ah,
là.
Oui? Okay.
C'est vraiment un gars là, qui est spécialisé dans les enquêtes sur la corruption. Tout ça pour te dire, mandat sans restriction, embaucher le nombre de jurys de jury comptables puis de techniciens en informatique pour vider les serveurs de l'entreprise de Otera. Je veux tout savoir. C'est ça que j'entends, moi.
Okay.
Michael Sabia veut tout savoir et il a le doigt sur le bouton. S'il faut que des têtes roulent, elles vont rouler. C'est les informations que j'ai. Donc, à suivre, parce que ça nous concerne dans la Caisse de dépôt.
Ben oui, absolument, c'est notre argent.
Absolument.
François Legault, a-t-il fait l'erreur qu'il a souvent reprochée aux libéraux?
Garde, oui.
Oui, hein?
Oui, mais c'était d'une certaine façon inévitable, puis je vais te l'expliquer dans un instant. Et par ailleurs, son erreur, à mon avis, c'est pas de nommer quelqu'un, c'est pas de faire une nomination partisane. Son erreur, c'est d'essayer de nous faire croire que c'est pas une nomination partisane.
Voilà.
Tu comprends?
Oui.
On n'est pas des poules, pas de tête. Tu comprends? On n'est pas des poules, point. Tu comprends? Je veux dire, on n'est pas des dindes, on s'appelle Samsonite, on se promène pas avec une poignée dans le dos. Dites-nous-les.
Ouais.
Dans certains postes clés, comme délégué général à New York, c'est de ça dont on parle, délégué général du Québec à New York, c'est normal que François Legault nomme quelqu'un de proche de lui, quelqu'un à qui il peut parler. Je prends le téléphone, j'appelle Catherine Loubier parce que c'est d'elle dont il s'agit.
Ouais.
Catherine, Qu'est-ce qui arrive avec le dossier de cette entreprise qui veut venir s'installer au Québec? On négocie des tarifs d'hydro avec eux autres. Il faut qu'ils soient à tu et à toi avec certaines personnes qui occupent des postes clés. Délégué général du Québec à New York, à Paris, à Londres, c'est des postes clés. C'est normal qu'il nomme des proches à lui. Catherine Loubier, moi, je pense que ça reste un bon choix. Elle a joué un rôle important dans la transition. Elle a été, elle a fait ses classes dans l'entourage de Stephen Harper. Mm-hmm. Mais ce qui m'agace, c'est qu'hier, la ministre Giraud, la ministre responsable des Affaires internationales, sort puis a dit, écoutez, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une nomination partisane, ça s'inscrit dans notre nouvelle politique sur les gens compétents qu'on veut nommer. Et là, elle rajoute, mais vous savez, dans la réforme qu'on veut nommer, qui va axer les nominations sur la compétence, on veut mettre en place... cette réforme-là. On se réserve les postes de délégué général pour des nominations. Ben là, ben dis-moi-le, ben Madame exact. Giraud, ben dites-moi.
Madame Loubier était directrice adjointe du cabinet du premier ministre jusqu'à la semaine passée.
Ben voyons.
Dites-nous-le, puis ça ne veut pas dire que la femme n'est pas compétente.
Ben non.
Dites les choses,
ben
après
oui,
ça.
Oui, dites. Il y a un certain nombre de postes, c'est sûr qu'elle a dit. Alors, tu vois, ça, c'est un autre cas. À mon avis, elle a été mal préparée pour son point de presse.
Ouais, d'accord.
Madame Giraud, dites-les.
C'est ça.
Pour la majorité des postes, ça va être un nouveau processus. Non partisan, axé sur la compétence, mais il y a un certain nombre de postes clés où Legault se réserve le droit de nommer des gens à lui parce qu'il veut des gens de confiance. Par ailleurs, tu as vu que les caquistes se sont quand même protégés.
Ouais.
Ils savaient qu'ils allaient se faire attaquer. Fait qu'ils ont nommé un libéral, Jean-Pascal Bernier, qui était chef de cabine de Philippe Couillard. Ils l'ont nommé au poste de VP à la Société d'habitation. Puis ils ont nommé un dénommé Stéphane Delbecq, qui, lui, a été un proche, notamment, de Mme Marois. Il l'a nommé, François Legault l'a nommé au conseil exécutif. C'est comme le ministère du premier ministre. Je veux juste te dire, je l'ai connu, Delbecq, moi.
OK.
C'est une bonne nomination.
Oui.
C'est une bonne nomination. Delbecq, là, je l'ai tellement bien connu parce que moi, je siégeais au comité de la période des questions, Catherine. À tous les matins, on se réunissait pour déterminer quel est l'angle des questions, on y va sur quel sujet, quels sont les députés qui vont se lever. Il était là. Et Delbecq, là... Il fait de la politique depuis les années 80. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Expérience politique, expérience gouvernementale. Il a été directeur de cabinet de Joseph Facal quand Joseph Facal a été ministre des Affaires intergouvernementales, ministre de l'Immigration, ministre président du Conseil du Trésor. Il a une grande expérience de la machine, bon sens de l'État. Et dans ces réunions-là, il ne disait pas un mot. C'est un gars qui ne parle pas.
Okay.
Puis à un moment donné... On était tous, mettons, tout feu, tout flamme sur une idée. Là. On était tous enflammés. Là. On venait de faire la découverte du siècle. Oh, yeah, on va y aller là-dessus. Ça va être bon, on va les avoir. Là, il nous écoutait, il disait pas un mot. À un moment donné, il levait le petit doigt. Là, il prenait la parole. Il parle tout bas, Stéphane Delbecq. Quasiment marmonnant.
Okay.
Et là, il fallait l'écouter. Parce que quand Delbecq prenait la parole, ça n'arrivait pas souvent. Là, il fallait l'écouter parce qu'il allait nous dire que notre idée du siècle, là, c'était pas une bonne idée. Il voyait 2-3 coups d'avance. Puis il est en train de nous dire, si vous allez là, vous allez vous planter.
Ah oui?
Parce que je suis déjà allé là, mettons, avec un autre ministre ou quelque chose. Vous allez voir ce qui va arriver. Puis là, il nous défilait la dynamique dans laquelle on s'apprêtait à s'engager. C'est un gars de bon conseil. Tu sais, ça arrive dans la vie hein, de rencontrer des gens de bon conseil. C'est une personne de bon conseil, Delbecq. C'est un gars qui est animé par le service public. C'est pour ça que je te dis... Puis je te dirais même, Jean-Pascal Bernier, je le connais pas, le libéral, mais c'est un bon gars. Je pense que c'est 3 bonnes nominations en résumé, Catherine.
Ouais.
Mais dites-nous-les.
Ben, c'est ça,
des bonnes nominations. Voilà. C'est des bonnes nominations, mais oui, il y a quelque chose de partisan là-dedans, mais pour certains postes clés, c'est normal.
Hey Bernard, t'en files un petit peu, juste un mot sur le vote hier à la Chambre des communes sur le rapport d'impôt, finalement, c'est non.
C'est non, c'est non. Mais ce qui est intéressant, alors, je vous rappelle, motion du Parti conservateur pour un rapport d'impôt unique pour les Québécois. Trudeau avait déjà annoncé son vote. Les libéraux se sont levés, ils ont voté contre. Alors, le Bloc, évidemment, a voté avec les conservateurs. Mais là, il fallait surveiller le vote du NPD.
Ouais.
Parce que l'NPD, au moment de leur congrès, ils avaient voté pour ça. Mais après ça, les syndicats se sont manifestés puis ils ont dit, ben non, on ne peut pas faire ça, le rapport d'impôt, on va perdre des jobs à Shawinigan, on va perdre des jobs à Jonquière. Alors, l'NPD a comme révisé sa position. Mais hier, il y a un député NPD qui a voté avec le Bloc, puis les conservateurs, Pierre Nantel.
Ben oui.
Et ce qu'on me dit, c'est que M. Aubin, votre député, il était dans l'antichambre au moment du vote. Et il ne s'est pas présenté pour le vote. Il s'est abstenu de voter plutôt que d'aller voter avec son parti. Et ce que ça me fait dire, moi, c'est qu'il est probablement au bain déchiré un peu là-dessus. En tout cas, s'il n'était pas dans l'antichambre, je peux te dire une affaire, il n'était pas en chambre. Il n'a pas voté.
Il s'est pas prononcé. Il a pas voté.
Il ne s'est pas prononcé. Et ce que j'entends, c'est que je pense qu'il était. Moi, j'ai l'impression là, que, dans le fond de lui-même, il est favorable au rapport d'impôt unique, mais il ne voulait pas aller voter contre son parti. Puis il y a une autre députée sans souci, députée de Saint-Hyacinthe, députée NPD. Elle aussi était absente pour le vote. Et on me dit qu'elle aussi a été vue dans l'antichambre. Mais je le mets au conditionnel. Okay?
Mais là, parce tu sais que Bernard...
J'ai juste une source là-dessus. J'en ai pas deux. Okay. Fait que ça se peut qu'Aubin t'appelle dans les prochaines secondes puis dise Drainville, il est dans...
S'il nous appelle pas, nous autres, on l'appelle là.
J'étais pas dans l'antichambre. Ça se peut, mais chose est sûre. Il peut pas m'ostiner sur une affaire, sur le fait qu'il n'a pas voté. Il s'est pas présenté pour le vote. Pourquoi il s'est pas présenté pour le vote? Moi, je pense qu'il s'est pas présenté pour le vote parce que, dans le fond de lui-même, il est d'accord avec le rapport d'impôt unique, puis il est pas d'accord avec le fait que son parti ait changé d'idée là-dessus.
Ouais,
mais si en plus tu confirmes qu'il était dans l'antichambre, là, tu peux y poser la question, mais pourquoi vous n'êtes pas sorti voter? Vous étiez caché derrière les rideaux. Pourquoi vous êtes caché derrière les rideaux?
Il y a plusieurs questions. Puis tu sais qu'actuellement, il est en réflexion à savoir s'il se présente à la course à la mairie de Trois-Rivières.
Oui.
Il est supposé nous annoncer ça d'ici deux semaines.
Je suis au courant d'être ça.
Bon, bien, parfait. Bien, regarde, on va faire un suivi là-dessus. On l'appelle Drella, comme on dit.
Hey.
OK, salut Bernard.
Salut, Charles.
Hey, bye-bye. À la semaine prochaine. Bernard Drainville, mardi, jeudi, 7h50. La pause. Oui, M. Aubin, il est peut-être déjà à l'écoute. On va lui lâcher un petit coup de fil.